Et bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire et plus, par Sylvie, Oscar, Tim et moi-même, Karina. Bonjour Sylvie.
Bonjour Karina.
Bonjour Oscar.
Bonjour Karina.
Et bonjour Tim à la technique.
Bonjour Karina.
Alors Sylvie, au sommaire de cette locale du mercredi 28 avril.
Eh bien, nous allons rencontrer Diane Ravi, agricultrice, ça commence très très fort, à la ferme l'ERL Ravi à Saulce-sur-Rhône, avec qui on va parler, intempéries, c'est d'actualité. Pierre-Henri Opec le prendra la suite de Diane et on parlera du refuge Saint-Roch, on parlera chiens et chats notamment. Et enfin, on recevra Amandine Muraro pour Agir contre le cancer 26 et plus particulièrement le challenge 1001 pas rose.
Et toujours les brèves et les actualités comme d'habitude. Alors sur Radio BLV, on l'avait annoncé, l'épisode de gel, mais pas encore les conséquences de cet épisode. Selon le syndicat agricole FNSEA, c'est un tiers des vignes françaises qui seraient perdues, ce qui représenterait 2 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires. Pour Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, ce serait probablement, je cite, la pire catastrophe agronomique du 21e siècle, en tout cas de ce début de 21e siècle. Un épisode de gel qui a tout autant ravagé les vergers que les vignes et notamment détruit une énorme partie des cultures de Diane Ravi qui est avec nous au téléphone. Bonjour Diane.
Bonjour Karina.
Bonjour
Diane. Bonjour à tous.
Comment ça va ?
Ben écoute, ça va. On peut aller.
que cultives-tu Diane sur votre ferme ?
Comment, excuse-moi, j'ai pas entendu.
Que cultivez-vous à la ferme ?
Bah alors nous, en fait, on est une petite exploitation arboricole où on cultive 10 hectares d'abricotiers et environ 5 hectares de kiwis.
Oui, donc voilà. Les fruitiers qui étaient vraiment particulièrement touchés en plus par le gel.
Tout à fait, ouais, voilà. Et c'est vrai que les conséquences sont sans appel.
Et comment est-ce que ça s'est passé pour toi cette nuit-là ?
Alors, nous, cette nuit-là, donc, c'est la nuit du 7 au 8 avril 2021. Voilà, donc on était en alerte météo depuis quelques jours. Pour certains, c'était la 7e nuit d'alerte quand même. Donc en fait, vers minuit à peu près, la température a commencé à baisser. Donc là, en fait, nous, entre voisins, on s'appelle pour... on surveille nos thermomètres, en fait. Et vers minuit, ça commençait déjà à s'approcher de zéro. Donc nous, là, on a un moyen de protéger nos cultures, c'est l'aspersion.
Voilà, c'est-à-dire
donc en fait, le principe, c'est de mettre de l'eau sur nos cultures. Donc nous, c'est sur nos kiwis, pour protéger en fait la jeune pousse. Ça permet de maintenir une petite cellule de glace autour de la jeune pousse pour maintenir à zéro degré, en fait.
D'accord.
Ça permet de protéger contre le gel. Voilà. Donc en fait, dès que ça s'approche de zéro, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va allumer nos asperseurs. Donc en fait, à 1h du matin, on a allumé notre première parcelle. Il faisait à peu près 0 degré.
Et ça, voilà. Donc toute la nuit, vous avez pu dormir cette nuit-là ou est-ce que vous avez suivi
Ce serait trop simple. Donc voilà, nous, ça a été pour la première parcelle. Donc on allume, on ouvre la vanne et puis après, en fait, on va vérifier que l'installation fonctionne correctement, même si au préalable, on avait quand même vérifié. Donc là, il faut voir si tous les asperseurs tournent bien, si on a la bonne pression. Voilà, nous, le problème, c'est qu'à 1h du matin, en fait, la température, elle a baissé pour tout le monde. Donc, en fait, on a demandé de l'eau, parce qu'on est sur un réseau commun. tous en même temps.
Mince.
Donc, la mise en route des pompes, ça a été un peu compliqué, on va dire. Donc là, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les voisins, on appelle la maintenance. Voilà. Bon, finalement, vers 2h du matin, à peu près, ça tournait à peu près normalement. Nous, on a allumé aussi notre dernière parcelle qu'on gère en interne sur notre réserve d'eau à nous. Mmh. Voilà, donc là, le thermomètre, à ce moment-là, il est à peu près à moins 1,5, moins 2. Et voilà, voilà, à ce moment-là, tout tourne, on a tourné dans nos parcelles. Donc là, on se dit, on va boire un petit café pour se réchauffer. Voilà, on s'accorde une petite pause. Et puis oui. Après, bah, on va dire une demi-heure plus tard, pas plus, on repart, voir si tout fonctionne bien. Et là, bah, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Et en fait, bah, nos filtres, l'eau était sale, donc nos filtres étaient pleins. Donc on a dû intervenir sur nos différentes parcelles pour nettoyer les filtres.
D'accord.
Voilà, donc là déjà pas beaucoup de pression, donc on se dit bon, souci, on fait le plus rapide possible, mais bon voilà, on reste pour l'instant à ce moment-là, on est assez confiant. Voilà, donc en fait on surveille, on tourne, voilà. Donc au lever du jour, on a quand même atteint les moins 4 degrés.
C'est à partir de quelle température que ça devient vraiment compliqué pour les fruitiers ?
Ben, là, cette période de l'année, hein, on peut considérer que dès qu'on est dans des températures négatives, et ça a des conséquences. Après, c'est surtout le temps, en fait. Si tu veux, s'il fait moins 0,5, moins 1 degré pendant une heure, pendant deux heures, ça passe. Mais là, c'est vrai que ça a duré, on va dire, de minuit jusqu'à lever du jour, même plus. Parce que nous, on a commencé à arrêter notre irrigation seulement à partir de 9h30 du matin. Et on peut considérer que il faisait des températures positives qu'à partir de 8h du matin. Quoi.
Ouais, donc dire, toute la nuit.
On est resté, voilà.
Et vous étiez encore optimiste le matin? Vous y croyez encore?
À ce moment-là, ouais, on se disait on a sans doute sauvé nos kiwis, tous nos kiwis. Et on peut pas le savoir tout de suite. Hein. Donc là, on a commencé à arrêter les unes après les autres nos parcelles. Et voilà, donc c'est on va dire en milieu fin d'après-midi qu'on s'est rendu compte que malgré l'aspersion à certains endroits, on avait quand même gelé quoi. Aspect brûlé quoi, ça brûle les jeunes pousses.
Et au final, voilà. Vous avez perdu combien de votre production?
Alors, ben nous, là, le bilan de la nuit, constat un peu amer quand même, on a 100% de perte en abricots. Bon, on n'a pas protégé nos abricots.
Ouais.
Vous aviez dû choisir entre les kiwis et les abricots.
Voilà, bah, déjà, on doit choisir. On n'a pas non plus, on ne peut pas arroser, pas arroser 15 hectares en même temps, quoi, hein, parce qu'on partage la ressource quand même. Et puis, on n'a pas mis d'autres dispositifs. Il existe d'autres dispositifs qu'on n'a pas mis. C'est un choix aussi qu'on a fait. Parce que ces épisodes-là, c'est quand même très rare et heureusement. Mais voilà. Et pour les kiwis, on estime qu'on a quand même 80% de pertes. C'est très, très maigre, mais c'est pas rien. Et psychologiquement, ça compte.
Bien sûr.
Du coup, pour vous, la saison, là, elle va ressembler à quoi?
Ça va être assez particulier. Donc on va avoir une saison sans rentrée d'argent pour l'année 2021. Voilà, donc avec un arrêt de l'activité de notre salarié permanent et aucune embauche de salariés.
Pour la récolte, pour l'entretien.
Et voilà, l'enjeu, c'est qu'on est sur des cultures pérennes. Hein, nos abricotiers, nos kiwis, on les plante pour entre 20 et 30 ans. Donc, il faut quand même que ces arbres, on les soigne pour 2022, pour la récolte 2022.
Bien sûr.
Donc, ça veut dire...
investir sans aucune rentrée.
Voilà, c'est un petit peu ça le problème, ouais.
Voilà. Et au niveau des indemnités, comment ça fonctionne? Vous allez être indemnisé, j'imagine?
Alors, pour l'instant, au niveau des indemnisations, il y a quand même certaines annonces qui ont été faites par les pouvoirs publics. On annonce qu'il va y avoir un déblocage de fonds. Il y a eu des discussions avec nos représentants syndicaux, avec les politiques locaux. Il y a eu des rencontres avec le préfet, député. Pour l'instant, on est quand même dans l'attente de choses concrètes. parce que actuellement, voilà, on peut pas, enfin, on peut pas dire que nous, on sait comment ça va se passer à l'échelle de nos exploitations. Voilà, nous, on aimerait avoir une aide à l'hectare pour pouvoir permettre de faire travailler nos salariés et puis de préparer sereinement 2022, sachant qu'on va pas avoir de rentrée d'argent, quoi.
Donc ça voilà. Sera pas tout de suite, vous allez devoir attendre un bon moment avant de savoir.
J'ose espérer que dans les semaines à venir, on va avoir des réponses concrètes. Mais voilà, pour l'instant, j'avoue que je reste un peu vague parce que je ne sais pas comment ça va se passer exactement. Voilà, on a le soutien des banques, on va dire ça, ce serait pas un problème sur les annuités pour 2021, une suspension, une année blanche, comme on dit. Mm-hmm. Mais voilà, après, sur les indemnisations, voilà, c'est quand même encore des points d'interrogation, quoi.
Est-ce que les assurances fonctionnent dans ces cas-là? Est-ce que vous avez une couverture d'assurance possible?
Alors, au niveau des assurances, certains ont des assurances récoltes. Mmh. Voilà, donc là, normalement, ils auront une indemnité de leurs assurances. Bon, c'est pas une majorité de nos exploitations.
Oui, parce que j'imagine que c'est un coût.
Voilà, exactement, ça a un coût. Donc là, voilà, c'est ce qu'on appelle les assurances récoltes qui prennent le risque climatique et entre autres le gel en compte. Voilà, d'accord. Donc je présuppose que ces personnes-là seront indemnisées. Bon, c'est quand même une minorité, mais voilà.
Et pour les voisins et les autres personnes que tu connais qui travaillent dans ton domaine, est-ce que ça a été similaire cette nuit-là et cette situation?
On va dire que sur le secteur, sur les fruits à noyaux, donc à savoir les abricotiers, les pêchers, les conséquences sont les mêmes. Après, certains ont utilisé un autre moyen de protection anti-gel. Et donc, le principe, c'est de chauffer. Mmh. Donc, utiliser des bougies, hein, c'est de la paraffine. En fait, ces bougies, elles sont disposées de manière régulière à l'hectare et elles permettent d'augmenter de 2 à 3 degrés la température à l'échelle de la parcelle.
Donc voilà, ça a mieux marché.
Alors, ben, malheureusement, quand on atteint moins 4 degrés, même si on augmente de 2 à 3 degrés, on reste toujours dans le négatif.
Et oui, c'est ça le problème pour cette année.
C'est ça. Mmh. Et bon, j'ai certains voisins qui disaient, moi, si j'avais su... je l'aurais pas fait. Il faut quand même savoir que ces bougies-là, ça a un coût. Mm. C'est un investissement au niveau matériel de à peu près 3000 euros à l'hectare. Donc quand vous les mettez en route, vous savez que vous brûlez 3000 euros.
Ouais, c'est pas rien.
C'est pas rien. Qu'il faut quand même des moyens humains pour allumer toutes ces bougies. On est sur à peu près 450 arbres à l'hectare pour une parcelle d'abricotier. Donc ça veut dire 450 bougies à allumer. Mm. Voilà. Mais voilà, ça permet quand même d'augmenter de 2 à 3 degrés. Mais là, c'est vrai qu'un gel comme celui-ci, si fort, si intense, c'était inefficace, quoi. C'est vrai que c'est psychologiquement compliqué de se dire, voilà, j'ai fait ça peut-être pour rien, mais en même temps, c'est compliqué aussi de rien faire. Psychologiquement, c'est vraiment dur de ne pas tout tenter,
bien sûr,
quoi.
Bien sûr.
Voilà, puis on a quand même aussi des personnes, enfin moi je parle de... personnes qui sont sur les communes de Livron, Alex, Cré, tout ça, qui étaient en alerte quand même depuis plus de 7 jours, qui n'ont pas dormi de la nuit pendant plus de 7 jours, pour surveiller le thermomètre. Et c'est vrai que voilà, psychologiquement, ça laisse des traces, tout ça.
Bien sûr, oui, non, c'est clair que... ça fait quand même plusieurs années qu'on a des épisodes climatiques très, très particuliers et qui impactent les récoltes. Est-ce que vous pensez à une évolution éventuellement de vos productions?
Ah ben, nous, on se pose énormément de questions. Moi je me dis que ce genre d'épisode climatique compliqué, potentiellement on peut peut-être en avoir plus souvent. Il faut quand même vous rappeler que ce qui est encore plus catastrophique, c'est qu'on a eu quand même un mois de mars très très doux.
Oui.
On a quand même nos arbres qui ont démarré très tôt.
Oui, c'est parti très très vite. Ouais.
Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on a tant de conséquences aujourd'hui. Donc quand on parle de dérèglement climatique, je pense que là on est en plein dedans, quoi. Mmh. Et voilà, on se pose des questions. Est-ce qu'on fait des cultures sous serre pour maîtriser un peu plus le climat? Après, on se pose des questions. Voilà, ça a quand même un coût, un investissement. Et aussi, ça a aussi un impact sur le paysage, ce genre de structure.
Oui.
On se pose aussi des questions sur, sur l'utilisation de moyens de protection respectueux de l'environnement, mais en même temps, il faut aussi qu'on puisse faire vivre nos exploitations. Voilà, il y a quand même beaucoup de problématiques là-dessus, et c'est vrai que le climat, quand on devient agriculteur, on sait qu'on va devoir travailler avec.
Composer avec, ouais.
Merci beaucoup, voilà. Diane, de nous avoir raconté cette nuit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte du tout de ce que vivent les agriculteurs et agricultrices pendant ce genre d'épisode. Alors, merci.
Eh ben, de rien.
Merci beaucoup et bon courage en tous les cas.
Ben, merci de m'avoir donné la parole.
Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.
Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.
Le musée de Valence vous invite à la visite. Si, je vous assure, mais malheureusement, une visite virtuelle, une de plus. Allez, en attendant la possibilité d'aller arpenter le musée, c'est donc à cette visite virtuelle de l'exposition Philippe Favier All Over que le musée vous convie pour une immersion à 360 degrés. La visite se décline au fil de 12 salles sélectionnées au sein du parcours dans lesquelles le visiteur peut s'arrêter, zoomer sur les œuvres et accéder à des contenus créés spécialement pour l'exposition. Alors vous trouverez des podcasts, des tests écrits par l'artiste, des vidéos, tout un tas de choses qui ressemblent d'ailleurs, un peu hétéroclites, qui ressemblent à l'univers de Philippe Favier. Alors cette visite virtuelle est accessible très simplement depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone via le site internet du musée que vous pouvez retrouver. Donc vous allez sur d'ailleurs ce site internet, c'est une mine d'informations. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Et puis si vous aimez colorier, eh bien le musée vous propose une série de coloriages inspirés de leur collection pour petits et grands. À télécharger directement sur le site internet dans la rubrique « Le musée chez vous ». Le coloriage, c'est vrai que c'est revenu en force ces dernières années. C'est un petit côté méditation zen qui fait du bien à tout le monde. Et donc, profitez-en pour partager ça peut-être avec vos enfants ou, comme j'ai l'habitude de le dire, vous empruntez les enfants des autres en les prévenant au préalable. Ce qui est valable pour aller au cinéma peut l'être aussi pour le coloriage, pourquoi pas. Une petite info d'Artisans du Monde. Vous savez, Artisans du Monde, c'est la boutique qui se trouve un place du Temple dans la vieille ville de Valence, dans les rues piétonnes. Et Artisans du Monde, eh bien, nous, pour un commerce équitable, vous propose de nouveaux horaires depuis mars. Et donc, ces nouveaux horaires, c'est du mardi au vendredi, de 10h à 12h30. Et de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Et samedi, c'est non-stop de 10h à 18h30. Donc pour retrouver de nombreuses propositions dans ces boutiques Artisans du Monde, on vous retrouve aussi bien de l'artisanat sous toutes ses formes, que ce soit des sacs, que ce soit des objets, que ce soit des vêtements, que ce soit du café. Enfin, il y a vraiment une grande proposition et on les salue puisque Artisans du Monde, on les retrouve chaque année en partenariat dans le forum Jeunesse en Mouvement, par exemple. Donc, vous avez l'habitude de les retrouver. Donc, vraiment, n'hésitez pas du mardi au vendredi de 10h à 12h30, de 14h à 18h30 et le samedi, c'est non-stop 10h, 18h30.
Merci. Merci beaucoup Sylvie pour ces informations. On va parler tout de suite avec Amandine de Agir contre le cancer 26 et du fameux challenge 1001 par Rose, parce que donc Pierre ne répond pas pour le moment au téléphone. On retentera un peu plus tard en croisant les doigts. Bonjour
Il
Amandine.
Il s'est fait manger par les chats.
Merci Bonjour. D'être disponible un peu en avance.
Il n'y a pas de souci, on est déjà dans l'ambiance du challenge, donc on est disponible prêt à partir, exactement.
Enfin, on a de la chance alors. Donc dans le cadre de la prévention du cancer du sein Octobre Rose, Agir contre le cancer 26 met en place des challenges à relever. En 2021, action inédite, vous proposez le challenge 1001 pas rose. Alors qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond?
Alors, on avait envie cette année de fédérer un maximum autour de la cause de la prévention. L'idée, c'est toujours la prévention et puis l'accompagnement. Et quoi de mieux qu'un challenge qui s'adressait à tous pour parler du cancer du sein et des cancers féminins en général. Alors, ce challenge du 1001 pas, quand on dit qu'il est là pour tous, c'est vraiment qu'il est adaptable. C'est-à-dire qu'on va demander à tout un chacun de marcher. Du 1er octobre jusqu'à la fin du mois, l'idée, ce sera de marcher. Donc, on marche tout seul avec un sac à dos pour aller au travail, on marche pour accompagner les enfants le mercredi, on va marcher en famille, on va marcher entre collègues de travail, on va marcher en équipe, et puis on va surtout faire marcher les gens autour de nous. Donc voilà, comment on peut procéder à cette inscription, c'est-à-dire qu'on réfléchit, est-ce que je veux le faire en solo, est-ce que je veux le faire en équipe. Et honnêtement, c'est ce qu'on attend des gens, c'est qu'ils montent des équipes. Hein. Donc 10 personnes, ça peut être un groupe de copines, un groupe de copains, ça peut être même vos adolescents que vous motivez à aller faire un maximum de kilomètres. Voilà, donc c'est un package complet. On va proposer une inscription, donc une inscription individuelle, ce sera 15 €, mais il y aura aussi des tarifs pour les entreprises, pour les équipes. Voilà, tout sera disponible sur les réseaux sociaux et le site internet d'ACC26, bien sûr. Mais l'idée, c'est de vous fournir un podomètre qui va compter vos pas. Donc, on le met dans la poche hein, le matin quand on se lève. On le récupérera le 31 octobre. Et l'idée, c'est de gagner le challenge et surtout de se pousser dans nos propres limites. Tout ça pour la cause, bien sûr.
Alors, quel est le lien avec le cancer dans ce challenge ?
Il ne faut pas oublier que le sport, en général, est bon pour la santé. Donc, inciter les gens à marcher, ça fait partie de la prévention santé et principalement de la prévention des cancers. Voilà. Parce qu'on parle des cancers féminins, on parle du cancer de sein pour sensibiliser, mais des cancers, il y a le colorectal, il y a l'utérus, les papillomas, tout ça peut être... peut-être anticipé si on a une bonne activité physique régulière.
Ça n'empêche pas le cancer, il faut quand même le préciser.
Ah hein. Oui, ça n'empêche pas, mais ça, voilà, ça prévient.
Parce que de grands sportifs seront aussi atteints de cancer.
Ouais. Mais l'idée vraiment, c'est de générer un intérêt pour sensibiliser et puis pour rappeler à toutes ces dames que c'est important de prendre soin de soi.
Et pour sensibiliser justement, en partenariat avec le collectif Sud, vous organisez des ateliers de prévention.
Oui.
Comment se prévenir d'un cancer à part le sport ?
Alors, y a beaucoup d'axes. Hein, là, c'est un médecin qui vous parlerait mieux que moi. Mais la diététique, l'alimentation peut avoir une incidence sur les cancers, le sport beaucoup, et puis surtout le dépistage. Le dépistage va prévenir, tout simplement. Il faut se faire dépister. Hein, voilà. Il y a des campagnes de prévention gratuites, et puis il y a aussi des ateliers qu'on peut proposer, nous, sur les espaces de formation, mais également sur demande. On invite les chefs d'entreprise à nous solliciter. On a des équipes très, très bien formées qui peuvent intervenir au sein même des entreprises pour aller faire de la prévention, d'osopalpation, etc. Voilà.
Pour en revenir au challenge 1001 pas rose, qui peut s'inscrire, comment ça fonctionne?
Alors tout le monde, absolument tout le monde peut s'inscrire. En tant que particulier, vous pouvez vous inscrire facilement. Un petit coup de téléphone à Agir contre le cancer à Romans, mais toutes les informations sont sur acc26.fr, comme Agir contre le cancer, acc26.fr. Et puis, on incite aussi les chefs d'entreprise ou les employés des entreprises à monter leurs propres équipes via leur entreprise. Et dans ces cas-là, il y a un petit bonus, c'est que si vous vous montez en équipe, on vous fera floquer des sacs à dos spécial sportifs à l'effigie de votre entreprise ou du groupe que vous voulez soutenir. Voilà.
Génial. Donc, tout le monde peut,
pourquoi pas, tout le monde peut s'inscrire. Voilà, et c'est ça. Toutes les informations sont sur le site internet. Vous avez même un petit onglet spécifique, mille et un par rose. Mmh. Et puis, je le rappelle encore une fois, les réseaux sociaux, Facebook, on est extrêmement actifs. Voilà.
Ça, c'est bien vrai. Et moi, j'entendais ce matin sur France Culture parler des conséquences du confinement et du Covid sur le cancer, avec notamment le fait qu'il y a beaucoup... Alors, soit il y a des personnes qui n'osent plus aller dans les hôpitaux pour faire leur chimio ou se faire soigner du cancer à cause de la peur d'attraper le Covid, soit d'un autre côté, des opérations hyper importantes dans les traitements sont repoussées. Et donc, à cause de ça, les chimios deviennent plus longues. Enfin, ça a l'air très compliqué. Est-ce que toi, de ton côté, dans la Drôme, tu as eu des retours sur les conséquences du Covid pour le...
Alors oui, bien sûr. Je pense qu'les gens ont tendance à oublier qu'on ne meurt pas que du Covid. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit relâchement, je pense, des malades hein, qui se sont dit « Attention, je ne veux pas y aller, je ne veux pas faire mes soins, j'ai peur de la Covid ». Nous, on a ressenti au tout début peut-être une petite réticence, mais vu que les ateliers, les soins de support se font vraiment aussi sur des temps extérieurs à l'hôpital, l'activité est quand même bien repartie et tous nos ateliers sont pleins, donc c'est plutôt positif, voilà.
D'accord. Bon, ça... au moins, il y a ce côté-là. Est-ce que tu as un message à transmettre aux auditrices ou aux auditeurs ?
Oui, j'aimerais bien vraiment que tout le monde s'interroge sur la façon qu'on peut tous avoir à participer à notre petit niveau. Ce challenge des 1001 pas, c'était vraiment pour fédérer un maximum. Vous pouvez marcher avec votre grand-mère, vous pouvez marcher avec vos copines, avec vos enfants. L'idée, c'est de casser un petit peu les tabous de la maladie, de relever le défi. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut aussi marcher pour soutenir les autres. Voilà. On a tous, malheureusement, quelqu'un dans notre famille ou dans nos amis qui est atteint d'un cancer. Et relever ce défi, c'est un peu se battre aussi pour elle au pluriel.
C'est bien de le rappeler.
Et on peut s'inscrire donc dès maintenant, même si c'est pas tout de suite.
Surtout maintenant, parce que nous, on a quand même une grosse préparation. Mmh. Et puis, vous allez voir, on va vous préparer plein de belles surprises. Il va y avoir un top départ à la Foire du Dauphiné avec deux très beaux parrains et marraines. Eva Guillot, donc championne du monde de boxe, qui va représenter les femmes à la Foire du Dauphiné pour le top départ. Elle va nous inviter à relever son propre challenge. Et puis, on a un triathlète qui joue le jeu également, qui s'appelle Jean-Luc Capogna, sportif de haut niveau, qui prône depuis des années le sport santé. Donc, on est aussi très, très bien accompagnés. Vous aurez des belles surprises pendant ces temps forts.
Merci beaucoup, Amandine.
Mais merci à vous.
Merci. Encore un changement d'horaire, cette fois-ci, c'est sur les déchetteries de la GLO. Et notamment le Bourg-les-Valence, Valence-Léo et Valence-Porte ASE à partir du 3 mai. Donc c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. À Bourg-les-Valence, les horaires deviennent donc du lundi au vendredi. Donc lundi, mardi, mercredi et vendredi, attention, jeudi fermé, de 8h30 à midi et de 14h à 18h, samedi de 8h30 à 12h30. Donc plus le samedi après-midi. Ah, c'est pardon, excusez-moi, autant pour moi, voilà, j'ai droit à un gage. Le samedi, c'est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Et pour les produits toxiques à Bourg-les-Valence, c'est toujours le quatrième vendredi du mois de 9h à midi. À Valence-Léo, lundi, mercredi, jeudi et vendredi, donc fermeture le mardi, de 8h30 à midi, de 14h à 18h, comme pour Bourg-les-Valence, et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Pour les produits toxiques, à Valence-le-Haut, c'est tous les jours. Le Valensport, du lundi au vendredi, tous les jours, de 8h30 à midi et de 14h à 18h. Et le samedi, c'est pareil, 8h30, midi 30 et 13h30, 18h. Et pour les produits toxiques, c'est pareil, c'est tous les jours d'ouverture. Donc, pour les produits toxiques, un petit encore une fois, à Valence-le-Haut et à Valensport, c'est tous les jours. Et à, pour les Valences, c'est le quatrième vendu du, vendredi, non pas vendu du mois. Attention, attention, à partir du mois de mai, l'agglo cessera la collecte de l'amiante dans ses déchetteries et proposera bientôt une solution de remplacement. Alors, le bientôt, prochainement, on ne sait pas quand est-ce que ce sera, mais voilà, donc soyez, soyez prudents. À partir du mois de mai, plus d'amiante dans les déchetteries et on ne sait pas quand on nous proposera une solution de remplacement. Pour mémoire, les 13 déchetteries du territoire sont accessibles sur simple présentation d'un justificatif de domicile. Alors n'oubliez pas effectivement ce petit papier ou votre carte de déchetterie si vous l'avez. Strict respect des gestes barrières et port du masque obligatoire, bien évidemment. Et pour tous les renseignements, eh bien vous allez sur le site de l'agglo, valenceromanagglo.fr et vous trouverez toutes les infos ça sera la direction de la gestion des déchets qui est le, si vous avez vraiment besoin de les contacter directement, Valence Roman Agglo, direction des gestion des déchets, 04 75 81 30 30.
Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces informations très détaillées sur les déchetteries du coin. Parmi les conséquences en bout de chaîne des mesures sanitaires actuelles, on retrouve celles sur nos animaux. Et on n'y pense pas forcément, mais la crise sanitaire peut donc avoir un impact sur l'abandon ou l'adoption d'animaux. On fait le point avec Pierre-Henri, qui est directeur du Refuge Saint-Roch, notre SPA local à Valence, qui n'est pas techniquement une SPA, mais une ASPA. Bonjour Pierre-Henri.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va au refuge ?
Eh bien écoutez, ça va, on fait face.
Alors, on s'est parlé l'année dernière pendant le confinement, c'était très compliqué pour vous parce que vous deviez fermer. Les bénévoles ne pouvaient plus venir en nombre promener les chiens. Mais par contre, vous félicitiez les propriétaires d'animaux qui n'abandonnaient pas tant leurs bêtes que prévu. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, si vous voulez, on va dire que les abandons sont quand même plus importants. Malheureusement, on se retrouve face à une situation où on a beaucoup de chats et de chiens qui sont abandonnés. Et donc voilà, donc il faut qu'on pousse un peu les murs actuellement pour pouvoir rentrer tout le monde. Les situations sont compréhensibles, hein. C'est des gens qui sont en difficulté avec leur animal, qui sont en difficulté dans la vie. Donc on les accueille dans les meilleures conditions possibles.
Donc il y a particulièrement plus d'abandon en ce moment ?
Actuellement, on subit une grosse vague d'abandon. Mmh. Que ce soit pour les chats, que ce soit pour les chiens, on a sur ces deux espèces plus d'abandon que en règle générale. On n'est pas dans une période normalement où il y a plus d'abandon que d'autres. On n'est pas encore en été, on n'est pas... Mais par contre, oui, avec ce confinement, alors est-ce que c'est le résultat peut-être d'animaux qui ont été pris à une certaine période et qui maintenant n'ont plus leur place, on va dire, dans les foyers. Mmh. Est-ce que les gens ont des difficultés aussi liées à la situation sanitaire, hein ? Ça fait ça crée des contextes un petit peu compliqués pour les propriétaires. Donc oui, là actuellement, on subit plus qu'avant.
Et quelles raisons vous donnent les personnes qui vous apportent leurs animaux directement ?
Alors, on a quand même beaucoup d'animaux qui sont issus de personnes qui partent en maison de retraite ou en EHPAD. Mmh. On a aussi des problèmes de santé, des gens qui ont des soucis de santé. Et enfin, on va dire qu'on a pas mal de gens aussi qui déménagent et qui partent d'une maison pour aller dans un appartement et qui ne peuvent pas se faire accompagner. Donc là, c'est essentiellement les chiens, bien sûr, qui ne peuvent pas garder leur animal avec eux.
C'est surprenant ça, parce qu'on se dit avec la crise actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de verdure et de changer d'un appartement pour une maison, mais là c'est dans l'autre sens.
C'est ça, c'est dans l'autre sens. Alors ça peut aussi expliquer peut-être un contexte économique qui est compliqué, avec des gens qui justement n'ont plus les moyens d'entretenir leur maison. C'est possible. Après, nous, si vous voulez, on ne va pas non plus... on est là pour
creuser.
Écouter les animaux, on ne peut pas non plus...
Bien sûr.
Poser trop de questions aux gens, hein. Mais bon, ça peut aussi expliquer cette situation un peu exceptionnelle.
Et une autre situation qu'on retrouve aussi à Valence et dans ses environs, c'est qu'il y a beaucoup de chats errants en ce moment.
Énormément. On a énormément de chats errants. Alors, c'est vrai que les confinements qui se sont succédés ont empêché les associations d'intervenir correctement et de faire stériliser et de créer des zones où des chats sont tous castrés et stérilisés. Donc, du coup, ça crée des communautés qui ne s'agrandissent pas. Là, actuellement, avec ce problème justement lié au confinement, il y a beaucoup de petites chattes qui ont fait des bébés et ça a créé d'autres clusters, en fait, avec des quantités de chats importantes à chaque fois. Donc actuellement, oui, c'est un peu compliqué. Les chats errants, alors nous, c'est pas notre première action, hein. On n'est pas forcément sur le trappage des chats sauvages. Par contre, on intervient, on aide aussi d'autres associations pour dans cette situation où justement ça devient compliqué pour tout le monde, donc on essaie d'apporter notre aide à notre mesure.
Parce que qui s'occupe des chats errants normalement ?
Ah ben, vous avez l'école du chat, vous avez des associations qui interviennent, des nouvelles associations qui interviennent. Il y a ACF, il y a pas mal de nouvelles assos qui sont sur place pour justement aider un petit peu ces situations. Mais l'école du chat, surtout pour Valence, est assez active et très active et très efficace. Et donc, dans la mesure du possible, nous, s'il faut qu'on intervienne sur un secteur, on va intervenir. Mais après, c'est vrai que nous, notre démarche, en fait, c'est pour faire adopter des animaux. Il faut qu'on récupère des animaux qui vont être sociables ou qui vont justement le devenir avec l'aide de notre éducateur. Et à partir de là, ils partent à l'adoption.
Mais cette problématique de chat errant, elle est quand même importante, parce que du coup, ça peut aussi vous générer un afflux de chats qui arrivent. Comment on fait si on est dans un quartier, parce que Valence, oui, Bourg-les-Valence, c'est pareil, on a beaucoup de chats errants. Comment on fait si on voit des chats errants, certains qui se laissent approcher, mais dont on veut se débarrasser, vers qui se tourner et comment faire?
Alors, se débarrasser, c'est pas...
Enfin, se débarrasser, j'entends, oui, je suis un peu expéditive. On va dire débarrasser le quartier.
Ouais, on va dire assez. Après, les chats errants restent un formidable raticide naturel.
Oui,
écologique.
C'est vrai.
Et alors, pour la situation de Valence, il faut savoir que normalement, je suis mal placé pour en parler, parce que nous, le refuge Charoc n'est pas fourrière, hein, du tout. Mais il faut contacter la commune, la police municipale, de votre commune.
D'accord.
Ou la mairie, pour faire passer la fourrière municipale, la fourrière animalière. À partir de là, les animaux sont stérilisés et remis sur le site de trappage.
D'accord.
Une fois qu'ils sont remis sur le site de trappage et stérilisés, vous avez des chats qui seront beaucoup moins agressifs et on va dire ils vont moins voyager. Ils vont rester en fait dans une communauté. Et ils vont souvent empêcher d'autres animaux, d'autres chats d'intégrer cette communauté. Donc, c'est souvent une bonne solution pour avoir, un petit groupe d'animaux. Par contre, après, si vraiment c'est problématique et qu'on ne veut pas garder les chats, là, il faut passer par une association qui va faire un trappage et qui pourra peut-être trouver un site de nourrissage. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a plus d'euthanasie de masse par rapport aux animaux qui sont trouvés comme ça errants. On ne fait plus de trappage comme ça sauvage sur toute une commune, par exemple, et avec une euthanasie générale de tous les chats errants.
Bien sûr.
Et ces chats, à la SPA, ils ne peuvent pas trouver de nouvelles familles, ils sont trop sauvages?
Alors nous, on a normalement, au sein du refuge, on n'a que des chats qui sont pour l'adoption. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de site de nourrissage et de site de placement de chats errants. On a uniquement des... si vous voulez, comme j'ai dit qu'on était intervenu tout à l'heure, c'était en rapport avec des sites où il y avait des nourrisseurs, où on aidait à la stérilisation. On a intervenu surtout financièrement pour aider à la stérilisation et à la castration. mais sur le refuge, tous les chats qui sont au refuge sont adoptables. Et donc, on cherche une famille.
Alors, vous parliez d'aide à la stérilisation. Si je reviens sur l'histoire des chats errants, parce que certains se laissent encore une fois approcher, et le problème, c'est la stérilisation. On est bien d'accord que c'est pas c'est vraiment le problème principal, et que les gens qui se retrouvent avec des chats errants qu'on peut approcher n'ont pas forcément envie de payer ni les moyens de payer de leur propre denier la stérilisation. Comment on fait là. On peut faire appel à vous?
Non, il faut appeler la commune.
Toujours pareil, d'accord.
Il faut appeler la commune de votre ville. C'est le maire, premier magistrat, qui va faire intervenir une association pour aider. Nous, si vous voulez, à un moment donné, quand on est, on s'est retrouvé très rarement sur cette situation, mais à chaque fois, on a demandé de l'aide de la commune.
J'entends.
C'est parce qu'en fait, après, c'est un puits sans fond. Donc, c'est vrai que ça dépend de l'autorité du maire d'arriver à assainir la situation et avoir des animaux tous stérilisés sur sa commune et éviter justement les clusters de... Parce qu'en fait, un couple de chats peut arriver à... Enfin, on arrive à plus de 5000 chats en quelque temps.
Hein. Mais oui, c'est une...
Donc c'est complètement... C'est une reproduction qui est quand même assez importante. Et puis là, on a eu des étés qui ont été très chauds, des jours très lumineux, et pour la... On va dire pour la reproduction des chats, c'est lié complètement au climat.
Et du coup, on peut peut-être lancer aussi, on peut en profiter pour lancer un appel aux propriétaires de chats, faites stériliser vos animaux.
Mais oui, alors ça, c'est super important. Alors ça, c'est vraiment notre combat, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens, surtout les gens qui ont des chats mâles, de les faire castrer, parce que les chats mâles, ils ne vont pas ramener des bébés, mais ils vont aller les faire quand même.
Et oui.
Et pour faire...
Au-delà de ça, vous avez...
Oui, pour faire un appel aussi aux auditeurs et aux auditrices, s'ils veulent adopter, en ce moment, le refuge est fermé. Comment est-ce que fonctionne?
Alors, le refuge est fermé actuellement, mais vous pouvez regarder les animaux qui sont à l'adoption sur notre site internet et sur le Facebook qui est rattaché au site internet. C'est un Facebook qui est ouvert, on n'a pas besoin d'avoir de compte. Une fois qu'un animal vous intéresse, vous nous envoyez un mail et nous, on vous renvoie un questionnaire. À partir de là... Donc on a beaucoup, beaucoup de questionnaires, il faut reconnaître qu'on a beaucoup de demandes. On ne peut pas répondre à tout le monde malheureusement parce que c'est assez abyssal. Mais on donne des rendez-vous sur place et avec le rendez-vous, on présente l'animal.
D'accord. Donc ça vous permet de faire un premier filtre.
Voilà. C'est-à-dire que oui, on ne veut pas, comme on est fermé parce qu'on nous a demandé de fermer au public. Mais après, une fois que le refuge sera déconfiné, on reprendra nos habitudes pour accueillir le public. Mais c'est vrai qu'actuellement, le principe du questionnaire est très important parce qu'on peut pas, on pourra pas passer des heures avec les gens sur le terrain. Par contre, on pourra passer du temps avec un animal en présentation.
Merci beaucoup, Pierre-Henri.
Mais c'est moi qui vous remercie. Merci pour avoir mis ce petit coup de projecteur sur le refuge et sur tous ces animaux actuellement qui sont en difficulté.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir.
Il nous reste une minute ou deux. Oscar, tu vas nous proposer la bonne nouvelle du jour ?
Oui, la ville de Lyon vient d'annoncer le déploiement d'une très bonne initiative. Elle va mettre en place un budget genré. L'objectif d'un budget genré, c'est de mettre l'égalité femmes-hommes au cœur de sa gestion de dépenses, s'assurer des quotas de femmes à des postes à haute responsabilité, de la diversité des activités proposées dans la ville, sportives notamment, ou encore imaginer des cours de récréation qui fassent plaisir à tout le monde. Il s'agit d'évaluer toutes les lignes budgétaires de la ville pour voir si elles bénéficient autant aux femmes qu'aux hommes. Historiquement, la ville a été construite par des hommes pour des hommes. L'idée est donc de réaménager ces espaces pour favoriser un accès égal à tous les habitants, faire en sorte que les femmes se tournent vers ces installations et s'y sentent à l'aise, a expliqué l'adjointe en charge des droits et des égalités, Florence Delaunay. Bon, ce concept n'est pas vraiment nouveau, il est déjà utilisé depuis le milieu des années 80 par l'Australie et le Royaume-Uni. De l'Islande au Japon, de nombreux pays ont commencé à adopter ce concept économique et politique. En France, il s'agit d'une première qui entraînera peut-être d'autres villes à faire de même.
Merci beaucoup, Oscar. Et si on faisait un budget genré à Radio BLV, il faudrait peut-être rajouter un peu de masculin. Alors, la suite des programmes à 13h, vous pourrez entendre Cause de nous, les jeunes lycéennes de Radio BLV. 17h, la radio dans le pédalo, la rediff de l'émission de ce matin. 18h, la rediffusion de la locale. 19h, le Blues Café Live. Et 20h30, le direct de l'oreille électrique. Bonne journée à tous.
Au revoir.
Et toutes.